vous êtes sur Aligre FM pour une nouvelle émission de Lusitania avec Marina au micro et Julien à la technique. Alors, depuis dimanche 9 novembre, notre radio organise une semaine intitulée « Les mains ont la parole », consacrée à l'artisanat. En partenariat avec le festival Paris Local du 15 au 18 novembre, Aligre FM célèbre le talent de tous les artisans. Dans ce cadre, Lusitania a décidé de mettre en valeur le travail d'Antonia Gonçalves, et de sa fille Sandra, qui dirige la maison Kennerlech, pâtissier, traiteur, épicerie fine, restaurant. Et voilà, bonsoir Antonia.
Bonsoir.
Bonsoir Sandra. Bonsoir. Alors, pour mettre nos auditeurs tout de suite dans l'ambiance, je voulais déjà leur faire écouter tout de suite une chanson que vous avez choisie, Mil Verde, qui est une chanson traditionnelle portugaise interprétée par Zeca Afonso.
Milho verde, ai milho verde, milho verde, ai milho verde, maçaroca. À sombra do milho verde, ai à sombra do milho verde, ai namorai uma cachopa. Milho verde, ai milho verde, milho verde, ai milho verde, miudinho. À sombra do milho verde, ai à sombra do milho verde, ai namorai um rapazinho. Milho verde, ai milho verde, milho verde, ai milho verde, folha larga. À sombra do milho verde, ai à sombra do milho verde, ai namorai uma casada. Mondadeiras do meu milho, ai mondadeiras do meu milho, ai mondai o meu milho vá. Não olheis para o caminho, ai não olheis para o caminho, ai que a merenda já lá vai.
Vous venez d'écouter Milho Verde, une chanson traditionnelle portugaise interprétée par Zeca Afonso. Et nous sommes donc avec Antonia et Sandra Gonçalves, qui dirigent la maison Kennerlech, que beaucoup d'entre vous connaissent, j'en suis certaine. Alors Antonia, pourquoi je vous ai demandé en fait de choisir les chansons qui allaient accompagner cette émission? Pourquoi avoir choisi Milho Verde?
Bah, o Zeca Afonso foi um homem que marcou muito na minha história.
Ah, en français, pardon.
Excusez-moi. Zeca Afonso, c'est un homme qui a marqué beaucoup mon histoire parce que quand je suis arrivée en France, j'avais 20 ans. Et donc, chez moi, il n'y avait pas la télé, il n'y avait que la radio. Mais nous, on travaillait, je m'occupais de mes frères, mes sœurs, on n'avait pas le temps de mettre la musique. Et cette musique, elle ne s'écoutait pas au Portugal. Quand je suis arrivée ici en France, je commençais à faire partie des associations, parce que c'est toujours ma force. J'aimais beaucoup participer dans les associations et on chantait beaucoup de chansons populaires. Et cet homme-là, on a commencé à chanter parce que le mari que je trouvais, Carlos, il jouait la guitare, ma belle-sœur avait une guitare aussi, et nous on chantait, dans nos baptêmes, dans nos anniversaires, tout le monde faisait la fête. Et une fois, on a fait une fête dans une association, et on est en train de chanter au milieu vert, et Zeca Afonso, il se trouvait à Paris,
il court dans la...
Ils courent dans la salle, ils nous embrassent, tout fiers qu'un groupe de jeunes qui arrive ici. Et c'est vrai que c'est un homme qui m'a beaucoup marqué après. J'ai toutes les chansons de lui. Je pense qu'il n'y a pas une seule que je n'ai pas dans mon album. Mais parce que c'est un homme qui m'a beaucoup marqué dans ma vie.
Et vous, Sandra, ça vous rappelle aussi des souvenirs ?
Moi, ça me ramène à l'enfance, puisque toute ma jeunesse a été accompagnée de musique. Mes parents écoutaient beaucoup de musique et on faisait beaucoup de fêtes de famille où chacun, tout le monde prenait la guitare et il y avait ceux qui savaient jouer. Mon père savait jouer de la guitare, mes tantes savaient jouer de la guitare, certains oncles aussi. La musique, ça a été quelque chose de puissant qui nous a accompagnés. Et aujourd'hui, ça me laisse des traces indélébiles. C'est cette joie et cet effet de meute, de groupe tout le temps que j'ai adoré, quoi.
Bon, alors on va quand même commencer à parler de Knelsch, qui est le thème de notre émission. Antonio, donc la plupart des amateurs de cuisine portugaise dans la région parisienne connaissent la maison Knelsch, et en particulier le pastelnat de Knelsch. Je rappelle à nos auditeurs portugais que Knelsch en portugais veut dire cannelle. Et moi, j'ai toujours pensé que le nom de votre maison venait de cette épice que l'on met dans beaucoup de plats portugais, et en particulier que l'on saupoudre sur le pastelnat avant de le déguster. Mais j'ai découvert que non, que je me trompais, et je suis presque sûre qu'il y a plein de gens qui croient la même chose que moi. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce nom et quand et comment vous avez pris la tête de cette pâtisserie ?
Alors, Madame Canelas, c'est une dame qui avait une maison à Pierrefitte. Et son mari était maçon, il y avait une société de maçonnerie, et elle ne travaillait pas. Malheureusement, elle a perdu son mari en Espagne, et elle a monté une affaire de pastel de nata. Dans sa cave, dans son garage, elle a monté un four, elle a fait venir un pâtissier de Portugal, du Alentejo, Donizet, et elle a commencé à travailler, et à vendre des natas dans les restaurants, parce qu'avant, elle faisait petites quantités dans les restaurants, elle faisait le commercial. Mais elle s'appelait... Lui est appelé Monsieur Canelas, c'est son nom de famille.
D'accord,
c'est incroyable. Et à partir de là, il a voulu mettre au nom de son mari en évidence. C'est pour ça que la société s'appelle Canelas.
Bon, c'est incroyable. Elle aurait pu s'appeler Madame Béton. Non, mais... ça aurait été moins fan. Bon, d'accord, c'est amusant. Et alors vous, quand est-ce que vous avez repris cette société ?
Alors, je connais Madame Canelas et de temps en temps, on faisait des sorties, elle et un associé qu'elle avait, et moi, et mon mari. Et on faisait souvent des sorties tous les quatre, le samedi soir ou le dimanche soir. Et puis un jour, j'ai appris qu'elle était en difficulté. Bon, je ne vais pas raconter tout le parcours, ce n'est pas intéressant, mais... Je sais qu'elle était en faillite et elle veut me trouver. Entre-temps, moi, j'ai travaillé dans une boutique à Paris 17e. Et un jour, elle arrive et me dit, Antonia, il faut que tu viennes prendre la société. Je dis, mais Canelas, je suis incapable. Parce que je travaille chez toi pendant 6 semaines à Noël, mais ce n'est pas pour ça que je peux prendre une société. Puis elle me dit, oui, de la façon que tu as travaillé, je te vois capable de le faire. Et là, je suis obligée de signer le bilan avant 97. Je dis, mais pourquoi ? Parce que ça fait 2 fois que je fais faillite et la troisième fois, j'ai un contrôle fiscal et j'ai peur de perdre mon pavillon. Et voilà. Et c'est comme ça que j'arrive à la maison. J'arrive à la maison, je dis à mon mari, Carlos, tu sais, il y a Philippa qui est passé. Il s'appelait Philippa, son prénom. Philippa qui est passé chez nous et il veut comprendre que je prenne la société. Il m'a dit, je te vois capable. Mais je dis, mais Carlos, je n'aime pas la paperasse. Alors, on va faire une chose. Moi, je fais la paperasse et tu t'occupes de fabrication. Alors, pour commencer, je dis à mon patron que je le quittais en mois de décembre, que je le quittais de Paris 17e, j'étais dans la vente, et je m'intègre chez Canelas. Dans la journée, je restais un peu pour comprendre la réaction des clients, parce qu'ils étaient en difficulté. Et de l'autre côté, je restais de nuit pour comprendre la fabrication. Pendant 5 ans, je pense que je n'ai pas beaucoup vu mes enfants grandir. Parce que je travaille de nuit avec les pâtissiers, et dans la journée, il faut que je reste un peu avec la secrétaire pour appeler les clients, pour voir comment ça marche.
Et vous étiez déjà mère, alors ? Vous avez déjà des enfants?
J'avais déjà ma fille Sandra et mon fils Gilles.
Oui. Ouais.
Et moi, j'étais déjà ado.
Oui.
Ah oui, c'est formidable hein, de s'être lancé comme ça. Et du coup, bah, vous avez... Alors au départ, c'était juste des pastelnats.
On faisait toute la pâtisserie. Ah, les gâteaux d'anniversaire.
Uniquement sucrés.
Ils faisaient aussi un peu de beignets de morue, beignets de crevettes.
Ah oui, quand même.
Beignets de viande.
Mais à l'origine, vous étiez déjà cuisinière ou pas du tout?
Pas du tout.
Pas du tout.
Alors,
mais vous aimiez cuisiner
oui,
quand même.
Alors, au Portugal, je n'avais pas le moyen de le faire. Mm-hmm. Ici en France, je ne pouvais pas le faire parce que moi, je vous dis honnêtement, mes parents, ils étaient en difficulté parce qu'on avait 6 frères. Et avec moi qui travaillais, avec mon papa et maman restait à la maison pour s'occuper des autres 5. Et moi, je ne pouvais pas. Alors, qu'est-ce que je faisais? Dans la journée, je travaillais dans l'usine. Et le soir, j'allais faire 3 heures de ménage. Je sortais de la maison à 6 heures du matin et je rentrais à 10 heures du soir. Et ma maman, bien sûr, quand j'ai arrivé le soir, la table était mise pour manger parce que je n'avais pas le temps de cuisiner. C'est un jour, en me mariant avec mon mari, qui ma belle famille... Il savait tellement bien cuisiner que je me suis mis à fond à avoir des recettes et à faire des plats. D'accord. Alors, c'est une blague que je vais vous raconter. Mon mari, il n'aimait pas la morue. Depuis que je commençais à cuisiner, il adorait la morue.
Vous voyez,
c'est la passion. C'est la passion. La passion de faire la cuisine portugaise.
Et vous êtes de quelle région?
Je suis Guimarães.
Guimarães. Parce que vous avez choisi aussi, parmi les chansons, Minha Cidade, de Paco Bandeira. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette chanson?
Alors,
Parce qu'il parle de Elva, je ne parle
oui,
pas du tout.
Oui, mais alors, c'est encore une histoire... que ça fait rire, mais quand je connais mon mari, il aimait beaucoup, j'étais pas encore mariée, mais il aimait beaucoup Paco Bandeira. Et quand on allait sortir, il avait une voiture, moi j'avais pas, il avait une voiture et il mettait des cassettes, petites cassettes de Paco Bandeira. Et moi, cette chanson, ça m'a fait vibrer pendant celle-là et beaucoup d'autres. Ça m'a fait vibrer la chanson de Paco Bandeira.
Et vous, Sandra, ça vous rappelle des choses ou pas, celle-là?
En fait, c'est très drôle parce qu'on a, au moment où Wanneldo Papa la demande en mariage, et ouais, c'est une chanson qui représente beaucoup pour la famille parce que voilà, il y avait la demande en mariage. Mais en fait, ce qui était trop beau, c'est quand on a fait le choix des chansons, il y en avait une douzaine, on a eu du mal à trancher, mais au moment où on les écoutait, c'est fou comme la musique, ça réveille la mémoire et tous ces trucs. Ça a été un moment de partage entre tous les trois, assez merveilleux. On avait tous les trois les yeux humides, on n'avait même pas besoin de parler, que tout de suite on savait que c'était celle-là. Et c'est inexplicable, c'est dans les paroles, mais c'est surtout dans la voix, en fait. C'est une voix qui nous a accompagnés. Et c'est l'amour aussi de mon papa et ma maman.
Oui, mais vous savez que moi, ça me rappelle mon enfance. Hein. Moi, cette chanson, tout de suite, c'est drôle.
Exactement.
Parce que c'est des souvenirs. Alors, on va écouter Paco Bandeira, Minha Cidade.
Alentejo, à beira do Guadiana. Sinto orgulho quando vejo a paisagem alentejana. Oh Elvas, oh Elvas, Badajoz à vista. Sou contrabandista de amor e saudade. Transporto no peito a minha cidade. Da cidade chamou-me de província. Eu tenho grande vaidade de ver nascido alentejano. Oh Elvas, oh Elvas, Badajoz à vista. Sou contrabandista de amor e saudade. Transporto no peito a minha cidade. À beira do Guadiana. Sinto orgulho quando vejo a paisagem alentejana. Oh Elvas, oh Elvas, Badajoz à vista. Sou contrabandista de amor e saudade. Transporto no peito a minha cidade. A minha cidade. A minha cidade.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Vous venez d'écouter Minha Cidade de Paco Bandeira et vous êtes sur Aligre FM 93.1 pour l'émission Lusitania. Alors, nous sommes avec Antonia et Sandra Gonçalves de la maison Canelas. Alors, est-ce que vous aimez chanter en travaillant ou écouter de la musique?
Moi, j'adore la musique. Même à la maison, je mets la musique très forte parce que j'ai un tourne-disque en bas. Et j'ai la salle à manger en bas et j'ai les chambres en haut. Et quand je faisais ma vie le lundi, je mettais la musique à fond pour que j'écoute là-haut pendant que je faisais mon ménage.
Et au travail, quand vous cuisinez, vous mettez aussi de la musique?
J'adore la musique.
Et vous chantez?
Oui, je chante en même temps. Oui.
Sandra, vous avez des souvenirs d'ambiance musicale comme ça, de vous, quand vous étiez... Petite ou adolescente, en fait. Hein,
Ah oui, j'ai des souvenirs. Déjà, j'ai été baignée dedans parce que la musique, ça a toujours été quelque chose d'important. La preuve en est. Mes parents ont mis un point d'honneur à ce qu'on fasse du solfège, à ce qu'on fasse... Enfin, moi, j'avais choisi le violon alto à l'époque. Et je faisais de la chorale aussi. Et puis, on chantait en famille, on écrivait des chansons. Quand on était chez Canelas, il y a tout le temps la musique à fond. Alors, il y a des gens qui nous prennent pour des fous. On essaie de faire attention quand tu as des gens de l'extérieur pour pas qu'ils nous prennent pour des...
C'est surtout mais... la musique portugaise ou pas uniquement?
Pas uniquement. Voilà. J'ai surtout baigné dans la musique portugaise. Mais par exemple, si on doit revenir à l'époque, il y a Enrico Macias qui a beaucoup marqué maman. Piaf aussi, on mettait ça à fond, on connaît tous les albums. Ça me revient pas comme ça, il y en a plein, mais en passant par Jacques Brel, par tous les chanteurs cultes, voilà.
Antonia, est-ce que vous croyez que la musique influence le résultat de la cuisine?
Ça, je ne sais pas, mais je pense que jamais ça met en paix avec vous-même.
Oui.
Parce que quand les chansons arrivent,
bonne humeur.
Vous absorbez les ondes positives de la chanson et vous êtes en paix avec tout ce que vous faites. Ça vous transmet aussi un bien-être.
Oui. Et Sandra, vous, comment est-ce que vous viviez cette expérience donc, de vos parents qui a été quand même un peu visiblement, qui a un peu bouleversé l'équilibre de la famille? Tout d'un coup, votre mère, elle travaillait nuit et jour. Remarque-nous, elle travaillait déjà avant peut-être nuit et jour. Mais comment vous avez vécu donc, cette expérience?
Alors, il y a la vision après une certaine maturité et la vision de l'époque. J'étais ado, je me disais, mais... c'est pas possible, comment on peut travailler comme ça? Mais je vous assure, en fait, mon père cumulait deux travails en même temps. Maman était jour et nuit au travail. Et en plus, elle avait l'œil sur la maison pour savoir si tout se passait bien, si on manquait de rien. C'était incroyable. Moi, je rentrais, j'avais une vie pas d'étudiante encore, puisque je pense qu'à l'époque, j'étais collégienne, lycéenne. Et après, j'ai fait mes études supérieures. Mais tout ce temps-là, sur la durée, je voyais mes parents pas dormir beaucoup, en fait. Mon père pouvait être appelé en pleine nuit parce qu'il y avait une machine qui était en panne ou parce qu'il y avait un livreur qui était malade et donc il fallait aller faire la tournée de nuit. Ou alors parce que c'est les joies de la petite entreprise. Aujourd'hui, c'est une PME. C'est un petit peu différent déjà parce que on arrive à avoir des personnes à chaque poste, mais à l'époque il n'y avait pas les moyens d'avoir une personne pour donc il fallait cumuler plusieurs postes en même temps pour essayer de s'en sortir. Donc vraiment ça a été sur la longévité comme ça pendant peut-être 10 ans, ça a été effroyable. Effroyable, vraiment.
Mais est-ce que votre mère cuisinait pour vous quand même?
Ah, maman a toujours cuisiné. Et en fait, ce que j'ai trouvé admirable, je ne sais pas où elle va puiser cette force, mais c'est une nécessité. Maman a besoin de recevoir. Elle se nourrit des gens. Elle adore partager. Elle est très généreuse. En fait, quand elle cuisine, c'est une cuisine de cœur et de passion.
Elle avait encore le temps de faire ça.
Je ne sais pas comment elle faisait.
Et qu'est-ce que vous préfériez, vous, dans sa cuisine avant?
Alors, qu'est-ce que je préfère? Alors, elle a quelques plats emblématiques comme ça. De toute façon, il y a soit les plats qu'elle connaît, qu'elle maîtrise parfaitement, soit elle s'essaye à des nouveaux plats. Et en général, c'est plutôt réussi. C'est même très, très bien. Genre, même des pâtés en croûte, elle a déjà fait du foie gras, que ce soit des spécialités portugaises ou françaises. Mais le plat que je préfère par-dessus tout, c'est la cataplana. Elle la cuisine divinement bien.
Et quand vous étiez petite, vous aviez envie de l'aider ou de suivre un peu son sillage ou pas du tout?
Alors, envie de l'aider. Bah, de toute façon, on était, toute la famille était embarquée. Hein. Oui. Moi, je me rappelle, et ça m'a poursuivi. J'étais bien contente d'ailleurs, parce qu'on gagnait un peu d'argent, elle ne nous exploitait pas. Mm-hmm. Mais j'ai décoré des bolerets, je les ai mis en boîte. Même une fois que j'ai eu mon permis, j'avais ma tournée le samedi matin où je faisais quelques clients. J'ouvrais la boutique le dimanche matin. Mes copines me disaient, mais t'es complètement folle, on est rentrée à 4h du matin. Et bien, il n'y avait pas le choix, j'avais une parole. Donc ça, ce sens... Cette valeur travail, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est quelque chose qui m'a été transmis. Et du coup, aujourd'hui, avec le recul, je me dis qu'est-ce que c'est génial de choisir un métier. Alors, c'est un métier, hein, mais au-delà de ça, cette sensation d'être à sa place, de continuer, de perpétuer ces valeurs qu'on m'a transmises, tout ça, enfin, c'est un bonheur.
Oui, c'est formidable. Antonia, et d'où vous venez les recettes du pêcheur de natte, etc.
Les recettes, alors, la société, elle existait déjà.
D'accord.
J'ai pris la société, il y avait déjà les pâtissiers, il y avait déjà les préparateurs. Et moi, j'ai suivi, et après, j'ai amélioré dans les choses que... Alors, parce que nous, la société en faillite, et puis la qualité, elle était un peu...
Et commencer un peu
à perdre la qualité. Et moi, tout ce que je voulais, c'est remonter la pente, refaire la qualité... Et c'est comme ça qu'on a construit une nouvelle Canelas. Alors, les recettes, c'est vrai qu'elles existaient dans la pâtisserie. Et moi, je passais de nuit. Et tout ce qui n'était pas bien, je marquais. Et puis, je révisais les recettes.
Il fallait tout goûter, quoi.
Mais oui, mais c'est la vérité. Même aujourd'hui, j'exige à nos boulangers, nos pâtissiers et à nos cuisiniers qui goûtent la nourriture. C'est une obligation.
Mais bien sûr. Voilà. D'accord. En fait, le pêcheur de natte, à l'origine, il vient de Belin, du monastère des Jérônimes. J'ai vu ça, en fait. C'était les moines qui l'ont inventé, n'est-ce pas ?
Exactement. Et en fait, ça a été... Pêche-Lélie Belin, donc, a ouvert en 1837, et c'est là que ça a commencé à être commercialisé.
D'accord. Alors, ça, c'était le sucré. Vous faites aussi du salé. Est-ce que ça a évolué, les recettes, ou ça a plutôt... Vous en faites davantage?
On en fait davantage, oui, mais c'est très important de maintenir ce savoir-faire. En fait, c'est toutes les recettes qu'on fait. On doit avoir, par exemple, si on regarde les pâtisseries individuelles, c'est des recettes qu'on a été puisées dans toutes les régions du Portugal, par exemple, à Tijolada de Branche, ou Pasteur de Feijão et de Torres-Vedras. Et en fait, c'est des recettes emblématiques parce que, en fait, quelle a été la vocation de la création de Canelas ? C'est ça qui est merveilleux. C'est en fait, c'est Mata Saudade. C'est en fait permettre à la communauté portugaise qui était en France de justement continuer à profiter de en étant loin du pays, de ces pâtisseries, de ces saveurs emblématiques. Et donc ça a été la première mission de perpétuer. C'est pas juste des pâtisseries, c'est quelque chose qui est ancré dans les traditions. Et c'était important de pouvoir les divulguer, les perpétuer en tout cas.
Par exemple, les Rollers de Berlin. Les choses qu'ils gardent comme souvenir, c'est à la plage. Ouais, tout le monde vendait des bolers de Berlin. Aujourd'hui, les gens ici sont contents d'aller dans la boutique. Aujourd'hui, j'ai une commande. Les gens arrivent pour manger un boler de Berlin parce qu'ils aiment encore garder le trait. Ils transmettent ça à ses enfants. Et je trouve que c'est ça l'important, c'est de continuer.
Mais votre question, c'était, est-ce que les recettes ont évolué ? Bien sûr qu'elles évoluent avec le temps. Déjà, quand on va puiser des recettes au Portugal, la première chose qu'on fait quand on les reproduit en France, c'est de désucrer déjà. Parce que le goût au Portugal et le goût en France n'est pas pareil. On désucre beaucoup en France, et de plus en plus.
Non, mais il y a une raison... Je vais répondre à Sandra. Il y a une raison pourquoi les gâteaux étaient trop sucrés. Parce que...
Ça conserve le sucre.
Le sucre, ça conservait. Il n'y avait pas de frigo. Et c'est le sucre. Vous voyez, dans les pays arabes, il y a aussi beaucoup de sucre pour garder justement...
Exactement.
La semaine. Et quand c'est la viande, on mettait le sel pour conserver aussi. Mm-hmm. C'est pour ça que maintenant... C'est vrai que Sandra, ses objectifs, c'est de moins sucrer la pâtisserie.
Pour une question de santé.
Pour une question de santé, elle est attentive à ça. Mais il faut savoir aussi que c'est une pâtisserie. C'est pas...
Bien sûr, voilà. Bien sûr. Alors, en fait, vous dites que Canal, c'est l'histoire de votre famille, mais c'est aussi celle de nombreuses familles portugaises. Alors, je cite ce que j'ai lu dans votre dossier de presse, une histoire qui s'écrit de mariage en baptême, de fête nationale en réunion familiale et que Canal accompagne dans ces moments importants. Alors, je dirais que la convivialité, le partage, ça fait vraiment partie de votre ADN, mais il est aussi une caractéristique de beaucoup de foyers portugais, de beaucoup de maisons portugaises. Alors moi, je sens très fort ça ici, en France, même dans ma jeunesse, quand je me sentais seule, on va chez des Portugais et puis c'est une chaleur, c'est une convivialité extrême. Et alors, je voudrais faire écouter donc à nos auditeurs uma casa portuguesa d'Amália Rodrigues.
Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas. São José das Oeiras, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Conforto pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho, e a cortina da janela, o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, poucochinho para alegrar uma existência singela. É só amor, pão e vinho, o caldo verde, verdinho, a fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim, um São José das Leixos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. Portuguesa, com certeza, e é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa.
Vous venez d'écouter la grande Amália Rodrigues, Uma Casa Portuguesa, donc ça veut dire une maison portugaise, où elle raconte justement que dans toutes les maisons portugaises, il y a à boire, à manger, et puis surtout pour... Il y a de quoi recevoir les amis, en fait. Hein, c'est important, ça.
Aligre FM 93.1.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 pour l'émission Lusitania. Et donc, nous sommes en compagnie d'Antonia et Sandra Gonçalves, qui sont les dirigeantes de la maison Canelas. Pâtissier, traiteur, dont vous connaissez peut-être le pastel de nata, le meilleur pastel de nata de la région, j'ose dire. Alors, Antonia, parlez-moi donc de convivialité, parce que justement, la convivialité, ça a toujours été très important, à la fois chez vous, dans votre famille, mais dans la famille Canel aussi, dans votre entreprise. C'est la façon de travailler
déjà,
avec...
Déjà, pour moi... Les amis, le partage, y voir des amis, c'est l'air que je respire. Si je n'ai pas d'amis, je ne peux pas vivre. Ça, c'est une certitude. Après, j'aime bien être en fête. J'aime bien recevoir. C'est vrai qu'une semaine avant, je suis en train de préparer qu'est-ce que je vais donner comme nouveauté, la déco de Noël pour mes enfants, pour la famille que je vais recevoir. J'aime recevoir, j'aime donner. Je pense que mon mari me dit souvent, j'ai de la chance que ma femme ne m'a jamais donné parce qu'elle donne tout. Et c'est vrai que j'aime bien partager, j'aime bien donner, j'aime bien faire la fête, j'aime bien... Ça ne me dérangeait pas d'aller à une soirée de fado à Radio Alpha, par exemple, et rentrer directement dans la pâtisserie et ne pas dormir. Voyez, mais c'est important aussi de faire un pour la fête. Sinon, le travail, ce n'était pas intéressant non plus. Mais j'aime bien cette idée de partage, de fête, d'amitié, d'amour entre les gens et les autres. Bon, c'est ma façon d'être.
D'accord, c'est formidable. Et je voulais parler de vos produits. Donc, ils sont tous faits main, avec soin. Donc, vous faites très attention à préserver l'héritage, les traditions. Et vous parlez même de beauté, de l'irrégularité. Moi, j'adore ça. C'est-à-dire que c'est vraiment pas une machine, quoi. C'est la perfection et la générosité. Alors, dans la pâtisserie, comme pour les plats salés, vous recherchez le soin dans chaque geste. Donc, comment est-ce que vous avez réussi, malgré votre croissance, puisque vous avez quand même beaucoup grandi, à conserver vos méthodes de production artisanale? Comment est-ce que c'est organisé chez vous? Comment est-ce que les personnes travaillent? Quels sont les produits qui sont utilisés?
Alors, déjà, il faut savoir que dans l'entreprise, donc on est 46, 48, en fait, c'est... Bon, voilà, c'est à peu près ça. Mais, en fait, on va dire même plus que les trois quarts, les quatre cinquièmes sont voués à la production. Et on n'est pas beaucoup finalement dans les bureaux, et ça, c'est parce que c'est important de pouvoir perpétuer ce savoir-faire. Et quand on parle d'irrégularité, à l'ère de l'industrie, où quand on va quelque part et les produits sont parfaitement ronds, ben nous justement, on adore cette irrégularité. Pour nous, c'est la preuve que ça a été fait soigneusement, méticuleusement, à la main. Et le geste, en fait, parce que je ne vais pas vous cacher, il y a plein d'entreprises au Portugal qui ont des machines, qui nous disent « Mais pourquoi vous faites ça comme ça ?» Il y a des machines maintenant qui font ça. Mais nous, ce qui nous fait peur, alors évidemment, il faut trouver l'équilibre entre ne pas épuiser le personnel, parce que c'est important d'être heureux au travail, se sentir bien et pas s'épuiser inutilement. Mais il y a des gestes, par exemple le fonçage. On a du mal à basculer au fonçage à la machine, parce que en fait c'est justement ça qui est beau, la beauté du geste, et faire qu'en fait l'irrégularité qu'on voit autour du pastel de nata, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on recherche et qu'on veut maintenir. Mais c'est dur à trouver, parce que c'est en fait on a Georges qui est là depuis des années, qui justement forme la jeune génération à adopter le bon geste. Mais on a peur que ce savoir-faire il se perde, donc c'est important. Il faut prendre du temps pour expliquer.
Et vous-même, vous travaillez aussi dans la fabrication?
Alors moi, je suis pas à la production, mais j'adore regarder. En fait, je vais vous dire la vérité. Je suis une piètre cuisinière, mais je me soigne. En fait, je suis éduquée par... on a un chef qui nous accompagne depuis des années, qui m'achète régulièrement des livres au Portugal, dont un Maria Lourdes... Comment elle s'appelle déjà? Maria Lourdes... J'ai oublié son nom. Modesto, voilà, qui a même écrit un livre pour les petits-enfants pour apprendre les bases de la cuisine traditionnelle portugaise. Mais justement, comme ma mère est une cuisinière hors pair, on s'est dit qu'on allait peut-être faire des blogs ou des vidéos pour justement expliquer comment on fait les recettes. Parce qu'en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a plein de gens comme moi. Ces recettes traditionnelles portugaises, il y en a plein qui ne savent pas les réaliser à la maison. Donc, ce sera une manière de perpétuer. J'ai d'autres rôles. Il y a d'autres choses que je fais bien, je vous rassure, mais pas la cuisine.
Non, mais c'était juste une question pour savoir.
Elle fait très bien ce qu'elle fait, elle fait très bien.
Bon, très bien, et puis c'est nécessaire. Hein,
mais tout le monde ne peut pas être en cuisine, hein. Il faut aussi demander.
Mais par contre, on veille au grain et on sait comment ça doit sortir, on a nos... Voilà, c'est important.
Et dans cette fabrication aussi, vous faites attention, j'ai vu, à l'impact écologique.
Oui, tout à fait.
Où est-ce que vous vous fournissez auprès?
Alors, on est labellisé produit en Île-de-France. Ça veut dire qu'on garantit la majeure partie de nos matières premières sont issues de la région Île-de-France. Par exemple, on va chercher nos œufs, notre farine en région parisienne, ou en tout cas à moins de 100 km. Donc, ça diminue notre impact écologique. Et puis, ça permet aussi de maintenir l'économie dans la région. Et tout ça, c'est important parce que c'est la première source d'emploi en France. Les PME, donc c'est important de maintenir l'emploi et d'être aussi là pour préserver ça.
Et quand vous parliez tout à l'heure de cuisine, est-ce que c'est facile de trouver enfin des artisans, enfin des cuisiniers, des vrais cuisiniers qui sont prêts à...
Vous voulez que je vous... Ouais.
Alors, ça ne doit pas être facile, non?
Non, il n'y a pas d'école internationale de cuisine portugaise. C'est donc différent de la France, hein, parce qu'on vient du monde entier prendre des cours en France. Au Portugal, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, avec l'essor du Portugal, clairement, les grands talents restent au Portugal, puisqu'il y a plein de nouveaux concepts qui ouvrent. Donc, les gens s'expatrient de moins en moins. Mais on arrive à trouver ce qui fait la motivation. C'est la renommée de la maison, donc ça fait toujours bien sur un CV de mettre qu'on est passé par Paris chez Canela, c'est toujours bien.
Bon, bah, formidable. Alors en fait, je trouve que dans vos produits, il y a à la fois l'aspect nostalgique dont vous parliez tout à l'heure, et moi je dirais même régressif. Moi, quand je mange une pâtisserie portugaise, ça me rappelle mon enfance en fait. Mais il y a aussi le goût, donc on le disait, du partage. Et la volonté de faire connaître une histoire, une culture. Donc, c'est pas seulement ça, c'est pas destiné uniquement aux Portugais, c'est destiné aussi aux Français. C'est ce qu'on fait aussi, nous, ici, dans cette radio. Donc, l'objectif, c'est de faire connaître aussi notre culture. Et c'est cette volonté qui vous a aidé, donc, d'aller de la boulangerie à traiteur pâtisserie et à la restauration aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, donc, cette évolution vers la restauration?
Alors, quand on était dans la petite boutique Canelas, dans le second pavillon, la petite fabrique, toute petite, les gens me disaient « Oh, si vous faisiez la cuisine, que vous faites des bons gâteaux, on venait chez vous, mais nous, on n'avait pas de conditions. Ouais. » C'est-à-dire que nous, on avait 150 mètres carrés, on a travaillé pendant 10 ans, et quand on est arrivé au moment qu'on ne pouvait plus continuer là-dedans parce qu'on n'avait pas d'espace pour grandir, on ne pouvait pas faire la cuisine qu'on aimerait. Mon mari, à 58 ans, a décidé d'acheter un terrain et fait construire. Alors, on a fait la construction, 48 ou 58, je ne sais plus.
58? 58. Et oui, on vous a tous pris pour
qu'on
des
a
fous.
Fait, tout le monde a pris pour des fous, parce qu'on ne se lance
Pierrefitte,
pas
là.
À Pierrefitte. Mm-hmm. On a acheté le terrain.
C'était
et on
en
a
2009.
Passé, on a passé de 150 mètres carrés à 1500.
Ah oui.
Bon.
Ah oui.
Alors, c'est vrai qu'on avait l'espace, on fait une partie restauration tous les jours, le plat du jour et un dessert, tout ce que la joie demande. Et derrière, on fait les plats que Sandra va vous expliquer comment on arrivait à envoyer des plats dans toute la France, s'il faut. Et en même temps, l'idée, c'est de créer une restauration et un Swiss traiteur. Comme on ne connaissait rien, Antonia va en cuisine avec Lucinda, c'est une fille qui est là-bas depuis 25 ans. Allez, on va faire le plat du jour.
Oui, elle fait partie des murs, Lucinda.
Voilà, il y en a commencé à faire le plat du jour, et puis les gens, ils ont commencé à aimer, parce qu'avant, on vendait que la pâtisserie. On a commencé à... Les gens, ils ont commencé à aimer. Les gens, ils ont commencé à demander de devis pour un anniversaire, pour une communion, pour... Et puis voilà, et petit à petit,
en fait,
on a...
c'est marrant parce que quand on t'entend parler, on a l'impression que tout est tombé tout cuit.
Oui,
et que, en fait, c'est incroyable, t'es d'une modestie. Mais en fait, si tu retranscris comment t'étais en tant que femme, t'as toujours eu l'ambition de monter quelque chose, de
tout
créer quelque chose.
Là,
donc
d'accord.
On a toujours l'impression, quand tu parles, que les choses sont venues à toi. Alors que t'as toujours été moteur pour les créer, les choses. C'est quand même incroyable de parler comme ça.
C'est vrai que quand la proposition est venue de Canelas pour acheter la société, moi, je cherchais déjà autre chose. Ma ambition, c'est de créer quelque chose
à vous.
De ma peau. C'est pas seulement travailler dans une usine, c'est de faire quelque chose. Bon.
C'est vrai.
Alors, comme on parlait de restaurant, j'ai proposé d'écouter, alors c'est vous qui l'avez choisi aussi, Diolinda.
Non, quoi? C'est moi.
Ah, c'est vous.
Mais ensemble.
C'est Sandra. Non, oui. C'est vous, quand je dis vous, c'est tout. Voilà,
j'adore,
toutes les deux.
Oui.
Vous voulez
mais
en
maman
dire un
aussi.
Mot?
Pardon?
Vous voulez dire un mot sur cette chanson? Non. On va Diolinda.
On pourra en parler après.
D'accord.
Oui.
Ok. Quando junto em restaurantes.
bailados até restaurantes, com uma grupo de amigos, todos me pedem que eu cante. E eu adiço o pedido,
canta lá só num instante,
mais do que um bocadinho. Trazem o primeiro prato, imagino para a mesa, e pedem que eu cante um fado. E eu adio a surpresa,
lá é só um fado,
só depois da sobremesa. Ora vai acima, ora vai abaixo, ora vai ao centro, desta já me sabe, esta já me sabe, mas eu não me ligo. Ora volta abaixo, ora volta ao cimo. Vai nova dose de vinho e a segunda pratada, eles apertam comigo para mostrar a minha garra.
Fala, canta um fadinho,
faltam-me aqui as guitarras. A sobremesa é servida entre um monte de garrafas, pede-me uma conhecida, improvisa uma guitarra.
Canta, não sejas vendida,
eu já canto daqui nada. Ora vai acima, ora vai abaixo, ora vai ao centro, desta já me sabe, desta já me sabe, mas eu não ligo. Ora volta abaixo, ora volta ao cio. Eu insisto, colega, eu insisto com o pedido, e eis que o café chega entre dois copos de vinho.
Canta lá que é para sossego,
eu canto já num instantinho. E encolhida no meu canto, à pancadaria assisto, é que eles bebem tanto e querem pagar por cachinho. Então que eu me levanto e lá me escapo de mansinho.
Ora vai assim, ora vai baixo, ora vai ao centro, desta já me sabe, desta já me sabe, mas eu não ligo. Ora volta abaixo, ora volta ao cimo. Ora vai assim, ora vai baixo, ora vai ao centro, desta já me sabe, desta já me sabe, eu já me lembrei. Ora volta abaixo,
esta já cantei.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Vous venez d'écouter Quando Jardin Restaurant par Diolinda et vous êtes sur Aligre FM 93.1 pour l'émission Lusitania avec Antonia et Sandra Gonçalves de la maison Canelas. Sandra, vous vouliez dire quelque chose sur Diolinda ou
Ben, on en parlait hors micro. Je trouve que ce quatuor est exceptionnel. Même si je ne trouve pas que c'est poussiéreux le fado, parce que j'adore ça, elle a quand même dépoussiérer un peu ce fado au travers de ballades et tout, j'adore. Vraiment, j'adore.
Alors, j'avais envie de revenir à quelque chose qui me semble très important dans toute votre histoire, c'est l'amour. Vous disiez que Canelas, c'était déjà l'amour d'un couple, donc au départ, puisque vous êtes lancés dans cette aventure ensemble. C'est aussi l'amour du Portugal, c'est l'amour de la cuisine portugaise, c'est le désir de la faire connaître, le désir de transmettre à vos enfants. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment cette transmission s'effectue ou s'est
Alors, effectuée? Quand nous on a décidé de changer de logo de Canelas.
Logo ou loco?
Logo. Logo de Canelas. Et, il s'appelait Canelas avant. Et après, nous, on voulait mettre autre chose qui soit plus fort. Et on a passé des jours à penser au deuxième titre. Et un jour, miracle, il y a la personne qui nous crée l'internet qui a dit, je trouvais une phrase, laquelle? Canelas, le Portugal à Paris. Je vous assure, ça m'a donné une force, c'est exactement ça. C'est Canelas, c'est nos produits, c'est notre culture, c'est notre gastronomie, c'est notre pâtisserie à Paris. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir cette force, cette envie de croire à ce qu'on fait. Parce que ce n'est pas toujours facile, comme dit ma fille, ce n'était pas toujours facile.
Mais j'ai l'impression que l'envie, vous l'aviez quand même depuis toujours.
Oui, voilà, j'avais cette envie et cette force. Mais c'est vrai que j'étais toujours une... Je ne sais pas si c'est normal que je dise ça, mais j'étais toujours une battante. J'ai du mal à rester dans la difficulté. Vous voyez,
oui.
J'ai envie de faire le pas à chaque fois.
Mais je voulais parler de transmission donc à votre fille, parce que Sandra disait au départ, je trouvais ça épouvantable. Alors comment ça a changé, vous, cette...
C'est la sensation d'être à sa place. C'est-à-dire que tout ce qui m'a été transmis, tout ce qui fait partie inhérente de ma culture, parce qu'en fait, on ne fait pas que des gâteaux et de la cuisine. Il y a des valeurs intrinsèques au Portugal qui sont le partage, la générosité. D'ailleurs, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui nous dit « je suis allée au Portugal », à chaque fois, qu'est-ce qu'ils nous disent ? J'ai goûté ci, ça, ça, mais surtout, qu'est-ce qu'ils sont sympas, qu'est-ce qu'ils sont souriants, qu'est-ce qu'ils sont... Et en fait, c'est ça, quand on transmet accueillant, quand on transmet pas que de la cuisine, quand on parle d'amour, c'est oui, l'amour... la famille, le partage, tout ça, mais c'est aussi l'amour à l'intérieur, mais c'est aussi l'amour qu'on offre quand
qui
on.
Se donne.
Oui, qui se donne à travers la cuisine, puisque c'est ça, c'est fait avec amour, tout simplement.
Et d'ailleurs, vous faites alors, parce que dans vos locaux, vous avez aussi un local pour faire des cérémonies, des mariages, des baptêmes. Des repas, tout simplement.
Jusqu'à 150 personnes.
150 personnes. Et ça aussi, ça fait partie de votre goût pour la convivialité, réunir les gens. Vous m'avez même dit que vous vous êtes beaucoup intéressé au décor floral.
Quand c'est des mariages importants, on a quelqu'un qui vient faire le service. Mm-hmm. Mais quand c'est des anniversaires, des choses simples... Bien sûr que je suis là pour acheter des fleurs et pour faire la composition florale. J'adore ça.
Mais ce qui se passe dans la salle de réception, c'est plutôt anecdotique, parce que la plupart des événements se situent en Île-de-France. Et là, on arrive avec tout clé en main, que ce soit les maîtres d'hôtel, les accessoires. Donc voilà, la magie, quoi.
Ah oui, donc vous fournissez pas seulement donc, le repas.
Les nappes, les verres, la vaisselle.
L'ensemble.
La décoration.
La décoration, toute une ambiance, en fait.
Exactement.
Pas la musique.
Pas la musique, non. Alors, si je suis DJ, c'est la cata.
Un petit jour, vous allez chanter vous-même. Bon, alors, vous, Sandra, donc, vous avez commencé donc à comprendre que vous étiez à votre place dès que, je sais pas, à 18 ans, 20 ans,
est-ce que... Ah non, c'était pas si... Non, d'abord, j'ai fait mon parcours chez Canelas. Je suis passée par un peu tous les postes, à part en production, comme vous avez pu le comprendre. À part du petit... Enfin,
oui, mais donc, vous avez quand même commencé jeune.
Voilà, et après, c'est arrivé comme une évidence.
Alors, je vais raconter l'histoire. Et je trouve que je suis fière qu'elle prenne une décision comme ça. C'est que nous, on arrivait à notre âge, on avait deux personnes qui étaient intéressées pour acheter la société. Et puis, on s'est dit avec mon mari, qu'est-ce qu'on fait ? On a 65 ans, on a 60 ans, qu'est-ce qu'on fait ?
Non, vous aviez 70 ans.
Oui, mais comme ça. Bon, j'ai dit, bon. Et puis, je dis, on va vendre. Parce qu'il y avait des gens qui étaient intéressés. On arrive à la pâtisserie, j'appelle ma fille et on lui dit, voilà, on pense vendre la société. Le lendemain, Sandra, elle arrive, elle était rouge comme votre chaise, avec les yeux rouges, énervés. La porte est claquée du bureau, autre porte claquée. Je dis, oh, calme-toi, qu'est-ce qui se passe, Sandra? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 15 ans que je lutte pour cette société, et tu vas décider de vendre la société sans m'en parler? Vous avez de la chance, je n'ai pas d'argent pour l'acheter, sans c'est moi. C'est moi qui prendrait la société. Alors, on se regarde avec mon mari. Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, l'histoire a commencé là. C'est Sandra qui a voulu prendre l'affaire en main. Et je suis très fière.
Bon, bah, écoutez, c'est formidable. En tout cas, ça continue. Et depuis, alors, parce que vous avez ouvert un petit restaurant, enfin, traiteur, c'est à Paris, rue de la Grange-Jourdain.
Une petite boutique à manger, on va dire.
Oui, voilà. Oui, c'est pas trop mal. Oui,
parce que Pastelaria, pour nous, ça prend tout son sens, parce qu'on peut manger aussi bien du salé que du sucré.
C'est récent, ça. Vous, ça fait combien de temps, alors, du coup, que vous êtes, que vous vous occupez, enfin, que vous êtes, vous avez plus de responsabilités, je dirais, à Canelas?
Ça fait combien de temps que j'ai plus de responsabilités? Depuis 2017. Mais réellement, j'ai pris 100% ma place en 2020. Bah, c'était en pleine adversité, d'ailleurs.
Mm-hmm. COVID,
c'était un contexte un peu compliqué. Mais du coup, ça arme. Ça arme. Et ça nous a vraiment permis de nous réinventer, de tester des choses. Fabuleux.
D'accord. Et du coup, c'est important de dire ça quand même à nos auditeurs, que vous avez donc votre pastelerie à Paris, 8 rue de la Grange-Aubel.
Exactement.
Et que vous y vendez non seulement donc, tous les produits sucrés, salés, mais on peut aussi s'asseoir. Et,
alors, il y a une dizaine de places assises.
Oui, c'est ça. Mais
on peut venir boire un petit chocolat chaud, un galin.
Un galin.
Un jeu de matasta mixte.
Matasta mixte. Et oui. Et un petit plat, un snack, voilà.
Alors, je voulais revenir donc à cette transmission et à cette histoire d'amour, parce que vous avez choisi une chanson qui est une histoire d'amour maternelle, qui s'appelle « A Vida Toda » de Caroline Deslandes. Donc on va écouter « A Vida Toda ». D'écouter Vida Toda, Caroline Deslandes, vous êtes sur Aligre FM Lusitania. Et avant qu'on se quitte, Antonia et Sandra Gonçalves, c'était vraiment, vraiment très sympa et intéressant de partager cette heure avec vous sur le canelas, donc sur la pâtisserie portugaise, sur votre passion, votre amour de la cuisine portugaise et sur ce savoir-faire que vous continuez à pratiquer et à transmettre. Et donc je voulais vous demander juste avant de finir, est-ce que vous auriez une phrase pour conclure cette émission?
Moi je voulais juste vous dire à tous les gens qui veulent tenter sa chance, c'est pas toujours facile, surtout on travaille de nuit, on travaille de jour, mais si on a la volonté, je pense qu'on arrive toujours.
Bon, en tout cas, vous êtes bien arrivés, bravo. Et vous, Sandra ?
Eh ben, je suis plutôt émue parce que c'est la première fois que je participe avec maman à une émission de radio. Donc, je suis contente que ça reste dans les annales. Donc, c'est un moment qu'on va être ravis de réécouter prochainement. Voilà, merci Marina pour l'invitation.
Et un moment en plus que vous avez préparé ensemble avec le choix des musiques. J'y tenais parce que je trouve que ça donne quelque chose de plus. Alors, on rappelle rapidement les adresses. Donc, à Pierrefitte-sur-Seine, Canet-Lachet, 23 rue Camélina, et à Paris, c'est 8 rue de la Grange-Aubelle. Mais vous pouvez retrouver toutes les adresses et tous les plats, et les livraisons sont possibles. Et puis, si vous fêtez votre anniversaire, n'hésitez pas. Donc, vous allez sur Internet, Maison Canerlach ou canerlach.paris. Et on va se quitter avec Un amour de Schwadu, et je vous dis quand même à la semaine prochaine pour une émission sur le documentaire sur Cesaria Evora, La diva aux pieds nus. Merci Julien à la technique. À très bientôt pour une nouvelle émission de Lusitania et on écoute Un amour de Schwadu. Merci à vous deux.
Merci.
Merci.
Caro destino, que eu não creia no destino. E o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido. Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai, que tristeza esta minha alegria. Ai, que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade. Saudades de ter alguém. Lamentasse não ter mais nenhum lamento. Talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai, que desgraça esta sorte que me assiste. Ai, mas que sorte eu viver tão desgraçada. Na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade. Saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem. Alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade. Saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.